France Culture. Le souffle de la pensée. Géraldine Mosna-Savoie.
Et vous, quel est le livre qui vous a marqué, celui qui agit encore tel une révélation? Philosophe, sociologue, historien aussi ont ce livre, ce texte, cet auteur qui continue à les hanter et qui a insufflé leur pensée. Chaque vendredi, l'un ou l'une d'entre eux vient nous en parler et aujourd'hui, le livre des livres, le plus traduit, le plus vendu, le plus interprété, discuté et disputé. Mais oui, bien sûr, je crois que vous avez deviné.
Au commencement que Dieu créa les cieux et la terre était flot et chaos.
Voyage au pays de la Bible.
Allô, allô, ici Claude Seda qui vous parle du mont Arara en Arménie. Il y aura bientôt 15 jours que deux archéologues ont mis à jour les restes de l'Arche de Noé.
Lève-toi, Jonas. Va jusqu'à la grande ville de Ninive et prêche contre elle, car sa malice est montée jusqu'à moi.
Je me mettrai en route, mais je n'irai pas à Ninive. Je n'irai pas à Ninive.
Pour sauver sa peau, il doit mourir.
Qui es-tu ?
Jésus-Christ. Jésus-Christ, fils de Dieu.
Mais il faut savoir que les maladies par manque de vitamines sont aussi vieilles que la race humaine.
Oui, puisque la Bible parle de cette guérison de Tobie grâce à du foie de poisson.
Qu'on lui aurait appliqué sur les yeux.
Le concours international de connaissances bibliques a pris fin très tard dans la nuit d'hier.
Mais ceci dit, il reste une dernière question, qui est la question pratique. En fait, comment lire la Bible ?
Bonjour Frédéric Boyer.
Bonjour.
Bienvenue dans Le Souffle de la Pensée. Vous êtes écrivain, traducteur et éditeur. Et vous avez choisi tout simplement de parler de la Bible.
Oui.
Et quand on a entendu cette dernière question, il reste la question pratique, comment lire la Bible ? Vous avez levé les yeux au ciel.
Non, bah d'abord, il vaut mieux lever les yeux au ciel pour lire la Bible.
Surtout quand on parle de la Bible, oui.
Non, je me suis dit en écoutant les petits sons là qui ont précédé l'émission que voilà, il faut sortir la Bible de tout ça justement, voilà.
C'est-à-dire de tout ça.
De ses représentations ou de ses lectures ou de ses, même si c'est très drôle, mais font un peu qui donne une fausse idée, je trouve, de ce que sont ces textes. Donc, dire juste une chose sur la Bible, c'est que alors vous dites c'est le livre le plus lu. Faudrait encore vérifier si c'est.
En tout cas, c'est le plus vendu. Oui.
Peut-être encore, je sais pas si c'est. Mais en tout cas, la littérature biblique a toujours été, a toujours été dans une sorte de combat dans la réception des cultures. Contrairement à ce qu'on croit, justement. Parce que nous, on est un peu formaté par toute une culture chrétienne, occidentale, dans laquelle la Bible n'était pas finalement questionnée, voilà. Mais en réalité, dès l'Antiquité, on va mettre en doute cette littérature, même on doute même que ce soit une littérature, hein, chez les polémistes latins ou grecs. On se moque de ce Moïse qui n'atteint pas la cheville Homère, par exemple, ou Virgile. Et la Bible aura dans toute l'Antiquité, dans tout le Proche-Orient antique, et même encore après, ensuite, au premier temps de sa réception médiévale, aura toujours ce soupçon de ne pas être une littérature véritablement digne de ce nom. Certains polémistes latins diront c'est une espèce de littérature de gardien de chèvres, ni plus ni moins, dans le désert. Voilà. Et ça n'a rien à voir avec, effectivement, Homère, Virgile ou d'autres auteurs de l'Antiquité. Et il y aura toujours cette question. Et pourquoi je dis ça ? Parce que ma relation à ces textes, c'est avant tout une relation littéraire. Et c'est au contraire, ce qui m'intéresse, c'est la beauté, la puissance, l'originalité littéraire de ces textes. Voilà. On dit souvent que la Bible est une bibliothèque. J'aime pas trop cette expression. Elle est pas tout à fait fausse au sens où c'est des livres qui sont assemblés.
Mais il y en a quand même plus de 70 quand même.
Oui, oui, mais c'est pas une bibliothèque au sens strict. C'est un livre qui se constitue. D'abord, c'est un livre qui se constitue justement par un acte de lecture. C'est-à-dire que ce qu'on appelle la Bible, c'est pas la même chose pour un juif, par exemple, ou pour un chrétien, et même entre chrétiens, ça peut en varier. On n'est pas toujours d'accord sur les mêmes livres. Et c'est l'acte de lecture qui va constituer ce livre. Et même le mot Bible est un mot donc qui vient du grec qui signifie les livres. Et mais pour désigner ce livre comme livre au nom avec un nom propre, la Bible, il faut attendre le début du XIIe siècle. Hein. C'est avant on parle d'écriture sainte, on parle de.
Et pourquoi au XIIe siècle d'ailleurs? Pourquoi tout à coup ça devient le livre?
Eh bien parce que on rentre dans la grande puissance de la chrétienté médiévale et à partir de là, effectivement, à partir de là, ça devient le livre, ça devient la matrice, ça devient la matrice du monde, hein, la matrice de la lecture du monde et de l'interprétation du monde et de la représentation du monde.
Donc ce qui est paradoxal, c'est que le livre n'est pas considéré comme de la littérature, Frédéric Boyer.
D'une
c'est un peu
façon,
ce que vous,
voilà.
Oui, ce que vous critiquez façon. dans les extraits non, qu'on a diffusés. Pas contre ces extraits-là, mais
brillant,
en fait, c'est révélateur de la manière dont on reçoit ce texte, la Bible. On le reçoit comme un document de religion, voilà. Quelque chose qui a été élevé, mais on ne le lit jamais. Et je le concède, moi, la première. Je n'avais jamais ouvert la Bible. Je connaissais certains passages, évidemment, j'en avais lu. Mais parce que vous êtes venu, parce que vous êtes là, Frédéric Boyer, je l'ai ouvert comme un livre.
Moi, ça aura servi à quelque chose.
Merci pour ma vie et pour ma connaissance. J'ai ouvert ce livre en me disant, je vais le lire comme un roman. Alors évidemment, je ne l'ai pas fini.
Non, mais effectivement, en tout cas, c'est une littérature. D'abord, ce sont des textes qui ont été écrits à partir comme des palimpsestes, un peu, hein, qui ont été écrits à partir d'autres littératures, que ce soit des textes mésopotamiens, littérature même égyptienne, toutes les littératures du Proche-Orient ancien, effectivement, résonnent en tout cas dans les textes de la Torah et même dans ce qu'on appelle le Nouveau Testament, dans les Évangiles. Les Évangiles ne sont compréhensibles et n'ont été écrites qu'à partir d'une langue, le grec, et un certain état de la langue grecque au 1er siècle, 2e siècle de notre ère, qui était aussi une forme de culture dans laquelle on a inventé un peu la langue chrétienne en écrivant les évangiles à partir d'une langue grecque qui avait déjà traduit une partie de la Bible puisque c'est une communauté de égyptienne juive de la diaspora qui va traduire au 3e siècle avant Jésus-Christ, qui va commencer à traduire les textes de la Torah en grec. Et cette traduction, parce qu'on va aussi parler de ça, c'est la Bible et littérature, parce qu'elle a toujours été traduction aussi. Voilà. Et cette première traduction en grec de la Torah va créer une nouvelle langue, en quelque sorte, de réception des Écritures. Donc c'est l'histoire de la Bible, c'est cette histoire-là de différentes littératures, de différentes réceptions, de différentes époques. Hein. Il faut imaginer, si on parle de livres, il faut imaginer que ce livre a été écrit sur près... Alors, il y a des discussions infinies. Mais enfin, en gros,
on arrive à déterminer.
On peut dire 800 ans, voilà, sur près de plus de 800 ans. On va dire 1000 ans si on prend le Nouveau Testament. Bon, c'est un peu une grosse fourchette, mais un livre qui a été écrit pendant 1000 ans par des auteurs évidemment différents, sur des époques différentes, même des états, des langues différentes, le grec, l'hébreu, mais aussi l'araméen, et des états de ces langues différents. Imaginez aujourd'hui, le livre sort 1000 ans après, voilà, c'est un livre qui a eu 1000 ans à s'écrire, donc
c'est le livre du monde presque alors.
C'est une condensation de différentes mémoires, de différentes représentations, et en plus, c'est un livre qui s'écrit en se répétant, c'est un livre qui s'écrit en se citant, c'est un livre qui s'écrit en s'interprétant, c'est-à-dire on ne peut pas comprendre la Bible si on ne comprend pas que, par exemple, Deutéronome, qui est un des livres du Pentateuque, va répéter et transformer aussi ce que dit l'Exode, qui est le livre qui va raconter la sortie des Juifs d'Égypte et le don de la loi à Moïse. Et bien, ce don de la loi, ça va faire l'objet d'un autre récit qu'on appelle le Deutéronome, qui veut d'abord en grec répétition d'ailleurs. Donc, on va répéter quelque chose pour retransformer l'enseignement, pour ajouter quelque chose. Et même dans la Genèse, dans l'épopée, dans l'Odyssée d'Abraham, par exemple, il y a plusieurs récits qui se répètent. plusieurs choses au moins trois fois, Abraham, dans la Genèse. J'aime beaucoup Abraham, mais je crois qu'on va en parler. Au moins trois fois dans la Genèse, Abraham fait pour sauver sa peau, pour sauver un peu son, fait passer sa femme pour sa sœur, voilà, pour qu'on la laisse tranquille, c'est quand même pas très glorieux, hein, et cette histoire se répète trois fois dans la Genèse. Pourquoi? Voilà, et il y a plein de il y a des répétitions, il y a des reprises, il y a, les livres se déclinent par interprétations successives, toute la littérature prophétique, c'est la même chose, ce sont des oracles, des textes, des paroles qui se répètent et qui se déclinent à différentes époques, à différentes réceptions. Voilà, donc faut imaginer, oui, donc c'est un livre monde, en tout cas c'est un livre, c'est un livre qui s'écrit comme ça, voilà, à la fois.
Et qui continue à s'écrire aussi, non? Alors, vous, par exemple, Frédéric Boyer, je le signale, en 2001 est paru, vous m'avez même dit que c'était le 11 septembre 2001, est paru une Bible que vous avez retraduite avec une quarantaine d'écrivains et aussi d'exégètes. Ouais. Donc vous avez contribué, en fait, à la, puisque la Bible est traduction, puisque je vous ai bien écouté, vous-même, vous avez participé à l'écriture, la réécriture, en fait, de ce livre. C'est un livre qui n'a pas de fin.
Oui, en tout cas, si ça continue comme ça, effectivement. Après, en tout cas, dans la réception de notre culture chrétienne, occidentale, mais judéo-chrétienne, même, on peut le dire, même si c'est une expression un peu rapide, mais bon, peu importe. Dans cette culture-là, effectivement, la Bible n'a pas cessé d'être réinterprétée, retraduite, réécrite.
Donc il n'y a pas de texte originel, on ne peut pas dire
non.
À la base, c'était ça.
Non, d'abord.
Et ça a été travaillé, corrompu, subverti, réécrit, embelli.
Non, parce qu'il y a aussi la question de la transmission orale, hein, qui est dans tous ces textes, non seulement dans les textes de l'ancienne, dans la tradition prophétique, c'était à l'origine une tradition orale. Les textes de la Genèse, c'était sont issus de traditions orales, mais les évangiles aussi sont issus de traditions orales, hein, c'est-à-dire même les textes les plus récents, entre guillemets.
Donc dans le Nouveau Testament.
Dans le Nouveau Testament, puisque avant d'être écrits, ces textes, c'était des traditions, comme une mémoire, en quelque sorte, de différentes communautés qui ont été progressivement mises par écrit. Mais la traduction, effectivement, pourquoi je dis que la traduction est importante dans la constitution même de la Bible dans notre culture, c'est que très vite la Bible est traduite. Très très vite, donc j'ai dit au 3e siècle avant Jésus-Christ, mais ensuite, dès les premiers siècles de notre ère, la Bible est traduite dans différentes langues, très très vite. Et tout de suite va se poser, même lorsque Saint Jérôme, selon un peu la légende, voilà, retraduit toute la Bible en latin, il faut savoir qu'elle est déjà traduite en latin, la Bible, ce qu'on appelle la Vetus Latina, la vieille latine, alors, pas tout à fait complète, mais il y avait déjà une traduction en latin. Et donc, la Vulgate, au 5e siècle, est un acte herméneutique et théologique, où la traduction...
C'est à la fois de l'interprétation...
Voilà, la traduction donne une interprétation nouvelle des textes, fonde une langue unique, quand même, de réception, alors que s'il y a quelque chose qui définit la Bible, c'est la polyphonie et les paroles plurielles. Là, tout d'un coup, on va... Et c'est comme ça que la Bible va devenir la Bible, c'est-à-dire qu'on va la faire rentrer dans une parole unique, en tout cas dans une langue unique, pardon, cette langue qui restera la grande langue de la chrétienté jusqu'au XXe siècle. Hein. Au début du XXe siècle, on parlait de traduction en langue vulgaire pour les traductions en français, voilà, encore, voilà, en tout cas dans la culture chrétienne et catholique.
Mais on va écouter un extrait de votre traduction, Frédéric Boyer, c'est un extrait de la Genèse.
Yahvé Dieu prend la dent pour l'installer dans le jardin d'Éden, qu'il travaille et qu'il veille dessus. Yahvé Dieu ordonne à la dent, mange librement de tous les arbres du jardin. Ne mange pas de l'arbre de l'expérience du bon et du mauvais. Le jour où tu en mangeras, tu te condamneras à mort. Yahvé Dieu dit, la dent tout seul, ce n'est pas bon. Je vais lui faire une aide, comme quelqu'un devant lui. Yahvé Dieu fabrique avec de la terre toutes les bêtes sauvages, tous les oiseaux du ciel. Il les fait défiler devant la dent pour entendre le nom qu'il leur donne. Chaque être vivant reçoit son nom de la dent. La dent trouve des noms à tous les animaux, aux oiseaux du ciel, à toutes les bêtes sauvages. Mais pour la dent, aucune aide, personne d'autre devant lui. Yahvé Dieu ensommeille la dent, et la dent s'endort. Il prend une des côtes de la dent et referme les chairs. Avec la côte prélevée sur la dent, Yahvé Dieu bâtit une femme et la pousse vers la dent. La dent parle. C'est elle cette fois. Os de mes os, chair de ma chair, c'est elle la femme qui de l'homme est prise. Oui, l'homme quitte son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Ils ne sont qu'un. Tous les deux sont nus. L'Adam et sa femme n'ont aucune honte.
France Culture. Le souffle de la pensée. Géraldine Mosna-Savoie.
Voilà un extrait de votre traduction, Frédéric Boyer, de la Genèse. Vous avez parlé du texte qui est la Bible, texte multiple, polyphonique. Là, c'est votre traduction qui date donc d'il y a 25 ans.
Il faudrait la refaire. Même.
À peu près. Ah oui, c'est vrai, vous en êtes plus satisfait ?
Non, il y a des choses que je referais, oui, bien sûr.
Mais quand vous avez lu pour la première fois la Bible, quel souvenir, qu'est-ce que ça vous a fait ? Quel souvenir vous en gardez ? La traduction, le récit, comment vous l'avez lu ? Est-ce que vous l'avez ouvert comme un roman, justement ?
La première fois, là, on peut, j'étais enfant. Mais finalement, enfant, j'ai eu l'expérience, je pense, assez banale, ordinaire, de tous les enfants à qui on fait lire la Bible dans des versions expurgées. Enfin, des versions pour enfants, quoi, voilà. Mmh. Qui sont parfois pas mal, d'ailleurs.
Et, c'est quoi la réaction parfois. Normale d'un enfant
On présente ça aux enfants comme des contes, hein. Et puis après, on va leur expliquer que c'était pas du tout des contes. Donc c'est assez étrange parce que la vérité, c'est que ce sont des contes et des légendes, bien sûr. Donc, enfin, sens large. Mais moi, ma vraie rencontre avec la Bible, ça a été beaucoup plus tard, voilà. Mais peut-être que toutes ces lectures, j'ai lu des Bibles
abrégées,
voilà. Bon, voilà. Est-ce que ça m'a passionné ? Je pense que je mentirais en disant que ça me passionnait. Après, on a retenu, mais comme beaucoup de gens, les histoires symboliques. Voilà, on a entendu Jonas, mais l'Arche de Noé, des choses comme ça. Mmh. Dans Ève, effectivement, même si on ne comprenait pas grand-chose. Tout ça, c'est très bien. Mais après, la vraie rencontre, c'est effectivement quand j'ai découvert que ces textes étaient susceptibles d'une interprétation infinie, quoi. Voilà. C'est donc dans ce qu'on vient d'entendre. Il y a plusieurs choses, hein, mais on va faire un peu d'exégèse.
Oui.
D'abord, il y a quelque chose de très beau. Et c'est pour ça que je voudrais faire entendre que ces textes, c'est de la littérature, c'est une grande, grande littérature. D'abord, dans ces textes, le personnage divin, donc cette divinité qui s'appelle, qui a d'ailleurs plusieurs noms, d'ailleurs aussi, même Dieu a plusieurs noms, hein, même Dieu a plusieurs nominations. Il y a même, d'une certaine façon, on peut dire plusieurs dieux dans cette Bible. Hein. Bon, mais en tout cas, là, en l'occurrence, cette divinité, c'est un peu une divinité. Le Dieu, là, est un Dieu bricoleur, hein, et il n'a pas beaucoup de chance, parce que ce qui bricole, ça marche pas très bien. Hein. D'ailleurs, il lui dit, là, il y a un arbre, l'arbre de l'expérience du bon et du mauvais. C'est l'arbre de la saveur, en quelque sorte. Hein. Et alors, il dit, bon, pourquoi c'est interdit ? Déjà, on ne sait pas. Mais
c'est très
le fait, à partir du moment où c'est interdit, bien sûr qu'il va y avoir transgression. Donc cette pauvre divinité, elle n'était quand même pas bien. Et puis surtout arrive ce récit qui a été pour moi un des plus beaux récits de la Bible, qui est le récit de la solitude de l'Adam. Alors il faut dire deux choses.
Pourquoi vous dites l'Adam ?
Ah ben non, voilà, il faut
c'est
dire deux choses.
C'est pas
Adam. Ben, d'abord parce que dans la Bible, il a un pronom, c'est l'Adam et... Alors, c'est pas moi qui le dis, mais dès les premiers commentaires, même rabbiniques et talmudiques, sur ces textes, les rabbins ont dit, mais sont interrogés sur le sexe de l'Adam. En fait, le mot Adam dans la Bible, Adama, est un mot qui veut dire, donc on le sait parce qu'on l'a répété, sorti de la terre, hein, sorti de la glaise, mais en fait, c'est l'humanité. Il faudrait traduire, si on devait traduire Adam, il faut traduire humanité. Voilà, il faut surtout pas traduire l'homme parce que ça ne veut rien dire. Donc, c'est l'humanité. L'humanité, là, n'a pas de sexe défini. Elle n'est pas sexuée. C'est très important. Quand j'explique ça, les gens souvent sont... L'humanité, quand elle est créée par Dieu dans la Genèse, elle n'est pas sexuée.
Voilà. Vous voulez dire que, par exemple,
dans
la langue...
Récit, qui est le deuxième récit. Ça, voilà, c'est ce que j'ai tout à l'heure, que la Bible procède par répétition et réinterprétation. On a un premier récit de la Genèse qui raconte la création que tout le monde connaît, enfin, par la parole, bon, ce qui est déjà aussi très important, puisque c'est une forme de... une façon de dire à l'humanité que l'humanité a la parole pour dire le monde et habiter le monde. Bon. Mais ensuite, on répète, voilà. Alors pourquoi on répète ? Ben ça veut dire, si on répète, c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'allait pas dans le premier, ou que ce n'était pas complet. Et c'est comme ça que ça procède. C'est une littérature qui est très intéressante. Et donc là, on répète l'histoire de la création de l'humanité. Bon. Le monde, c'est assez vite dit, mais c'est très beau. Le monde est décrit comme un jardin, tout de suite. Et l'humanité est définie comme celle qui va veiller, c'est un mot hébreu qui veut dire veiller sur, avoir le souci de, avoir le souci du jardin. Voilà. Mais l'humanité, donc, elle n'est pas sexuée, donc elle est seule. Voilà.
Mais quand vous dites qu'elle n'est pas sexuée, c'est que dans la langue.
Non, mais dans la langue, elle est.
Elle est. Donc là, par exemple, vous vous appuyez sur des textes qui sont en grec, en hébreu.
C'est l'hébreu. Ben, dans l'hébreu, effectivement, alors, c'est un masculin, si vous voulez, mais c'est. Le genre n'est pas spécifié, voilà.
C'est pas un masculin opposé à un féminin. Même avec la création, là, justement, de celle qu'on a appelée Ève, ou qu'on devrait dire Lève, du coup.
Oui, tout à fait. Donc, et le récit progresse d'une façon qui est très émouvante et très forte, c'est que la question du récit, c'est la question de la solitude, voilà. C'est la question à la fois d'être un et seul au monde, voilà. C'est donc une question qu'on peut se poser tous, d'ailleurs, des fois. Le récit explique, voilà, que cette divinité un peu bricoleuse est finalement assez compatissante et pleine d'empathie. Elle dit, bon, voilà, alors, ce n'est pas bon que l'humanité soit seule, voilà. Ce n'est pas bon que l'humanité soit une, que l'Adam soit un, voilà. Donc, je vais lui faire, alors là, c'est, il y a toute une littérature exégétique et philosophique importante là-dessus. Je vais lui faire quelqu'un qui lui soit assorti. Je vais lui faire, c'est le mot ezer en hébreu qui veut dire aide, qu'on traduit par aide. Alors on a tout de suite des générations et des générations d'interprétations et de commentaires ont pris l'aide comme une boniche, quoi, si vous voulez, comme une servante. Voilà. Alors que ce mot dans la Bible, qui est un mot assez rare dans la Bible, est toujours réservé au secours que l'on appelle quand on est dans la détresse. Par exemple, c'est le mot, c'est Ezer, c'est le qualificatif de la divinité que le psalmiste appelle. Donc, c'est pas une boniche. C'est vraiment celui qui se porte au secours de vous. Donc, Dieu dit, je vais faire quelqu'un qui se porte au secours de cette humanité seule. Et il commence par quoi, ce bricoleur un peu. Il commence par créer les animaux.
Mais ça ne suffit pas.
Non, mais c'est très beau, parce que ça veut dire que la première présence qui répond ou qui devrait répondre à notre solitude humaine, c'est l'animal. Ça dit quelque chose de très profond aujourd'hui. Je pense que peut-être qu'on n'a pas compris ça, on n'a pas interprété ça dans les siècles précédents, mais aujourd'hui, on entend quelque chose de très fort dans ce texte. C'est-à-dire que la première réponse à notre solitude, c'est l'animal. Et qu'il y aura toujours cette cicatrice-là, que l'animal est peut-être notre premier frère. Voilà.
Mais qu'on n'a pas reconnu.
Alors, on le reconnaît, et d'abord, ensuite...
Mais il était insuffisant, c'est ça que je veux dire.
Je vais y venir. Ensuite, il y a quelque chose de très beau, c'est l'art du récit biblique qui est un art de condensation, vraiment. Parce qu'en même temps, là, vous avez la création de la parole. L'humanité, pour l'instant, elle n'a pas parlé, elle n'a pas prononcé un mot. Et tout d'un coup, donc, la divinité crée ces petits personnages animaux et les fait défiler, ce qui est, bon, c'est assez beau comme image, les fait défiler devant ce pauvre gars tout seul. Et que fait-il, là? Ben, il donne des noms. Mais, ce qui est pas mal, parce que quand vous nommez quelqu'un, vous le reconnaissez. Donc, ça ne suffit pas. On va le voir plus tard pourquoi ça ne suffit pas. Mais au début, l'humanité fait ce geste de reconnaissance, quand même, de Daniel, puisqu'il le nomme. Même le verbe hébreu, c'est à la fois nommer et appeler. Donc, il les appelle par un nom. Voilà, ça serait ça la bonne traduction. Donc, rhinocéros, je sais pas quoi, guépard, léopard. Ouais. Donc, c'est aussi l'invention de la parole. La parole arrive pour reconnaître l'autre.
Bon. Oui, mais ce qui est fou, et on en revient à une question très philosophique qui est quand même que la parole s'invente en même temps qu'elle est déjà née.
Tout à fait, ouais, tout à fait.
Enfin, et d'ailleurs, c'est assez surprenant quand
elle
on dit.
S'invente par son usage, voilà.
Voilà, mais ouais, dès le début, en fait, ouais. Dieu parle et tout se crée. Ouais. On est d'ailleurs surpris par presque la facilité, c'est-à-dire les mers, le ciel, la terre, l'homme, les animaux, enfin l'humain, les animaux. Et quelque chose de, on pourrait s'attendre à, vous parliez de contes et de légendes, quelque chose de fabuleux. Il y a des épisodes fabuleux, il y a l'Arche de Noé. Non, mais là, il y a quelque chose de simple, de sobre.
Non, ce qui est très beau dans ce premier récit, c'est contrairement au récit
dont il s'est inspiré, d'ailleurs, comme les récits de la création de Gilgamesh en Mésopotamie, comme certains récits de création du monde en Égypte, il n'y a aucune violence. Alors que dans tous les autres récits, il y a une violence. Hein, alors, il y a une menace, puisqu'on, enfin, je sais pas comment l'appeler, une espèce de menace ontologico, je sais pas quoi, qui est cette espèce de chaos. Alors, le mot chaos n'est peut-être pas forcément bon, d'ailleurs, mais ce qu'on a, voilà, le tohu wabohu, hébreu, là, ce tohu bohu, qui signifie à la fois solitude et désordre, peut-être, on peut le dire, mais en tout cas, quelque chose d'indéfini. Bon, ça, c'est, mais sinon, il y a aucune menace. Et il y a aucun, je veux dire, il y a aucun danger, il y a aucune violence. Il y a pas de combat, alors que, par exemple, à la fois dans la mythologie grecque, dans les récits de Gilgamesh et en Égypte, il y a toujours des combats. Ce sont des divinités qui combattent entre elles et qui créent le monde et qui créent, là, il n'y a aucune violence. Et même, non seulement il n'y a aucune violence, mais en plus, c'est fondé sur la douceur, puisque le régime alimentaire en Genèse 1, donné à l'humanité et à tout vivant, c'est l'herbe. Voilà. Donc, le monde vivant créé en Genèse 1 est végétarien.
Et pourquoi alors il y a cette blessure? Pourquoi la solitude de l'homme apparaît comme un problème?
Il y aurait plusieurs réponses, des réponses anthropologiques, des réponses historiques. Je pense que c'était...
Il fallait quand même qu'il y ait un problème. C'est-à-dire qu'il y a la naissance du monde et des humains et des animaux ne s'est pas fait dans la violence.
Après, il va y en avoir des problèmes.
Oui, il va y avoir des problèmes, il va y avoir de la violence. Oui, oui, bien sûr.
Ah, déjà, il y a cette solitude. Voilà, effectivement.
Mais c'est de l'ordre du mal. La solitude est mauvaise. C'est ça la question que je vous poserai.
Oui,
vous voyez, comment, pourquoi elle serait mauvaise?
Oui, puisque la divinité. C'est pas dans ce texte qu'on a lu. Il faut le lire comme un texte littéraire. Je répète. Donc, comme quand on fait une analyse de texte, c'est pas l'Adam qui dit que ça va pas. On n'en sait rien. Peut-être que lui est très content avec ses rhinocéros.
On se demande même s'il parle d'ailleurs.
C'est bichouette. Non, mais c'est pas l'Adam qui dit à la divinité, dis donc, là, tu m'as créé des animaux, mais c'est quand même pas
génial. Ça,
c'est pas ça. C'est la divinité elle-même. La divinité elle-même qui dit non, ça ne va pas. Voilà. Ça ne va pas parce que il n'y a toujours pas quelqu'un qui va le reconnaître, qui va vivre avec lui, qui va être en vis-à-vis. Voilà. Ezer Kenego, c'est-à-dire quelqu'un qui vienne au secours et qui soit en face de lui. Le Kenego, là, hébreu, est très important puisque ça veut pas simplement dire être avec, ça peut vouloir dire contre lui. Et Rashi, au XIIe siècle, quand il analyse ce texte, il dira, eh bien, la femme qui va être créée, là, elle sera avec lui et pour lui, si l'homme est bon, et sinon, elle sera contre lui. Donc, c'est la naissance de la sexuation. C'est l'invention de la sexuation.
C'est pas seulement la naissance, par exemple, de l'amitié, de l'aide, telle que vous le disiez.
Voilà. Là, c'est la sexuation. Donc, voilà, puisque, en réponse à cette solitude, ce qui vient dans le récit, qui est un récit étiologique.
Vous dites sexuation et pas sexualité, forcément, mais l'un peut entraîner l'autre.
Ouais. Enfin, t'as espéré peut-être, mais en tout cas, c'est une sexuation au sens où on divise cette humanité une. On ne sait pas si elle est, on la divise en deux genres. Là, vraiment, c'est
le genre apparaît pour le coup dans le texte.
Oui, là, le texte est très non seulement il apparaît même grammaticalement. C'est sa mise en scène théâtrale dans le texte, c'est que maintenant il y a il et elle, il y a ish et isha. C'est-à-dire ils sont mâle et femelle. Voilà. Et cette création, le texte est très compliqué. C'est un très beau texte, très simple, trop simple d'ailleurs peut-être presque. Mais et avec cette histoire de côte d'Adam, alors. C'est pour ça que j'ai dit cette traduction. Bon, on a gardé la côte d'Adam. Bon. Mais vous savez, le mot hébreu de Salem signifie, en fait, c'est le mot qu'on emploie pour désigner les côtés d'un coffre, par exemple, les côtés de l'Arche d'Alliance, les côtés, on va l'employer pour l'Arche de Noé, voilà, les côtés de l'Arche de Noé. Donc, et ça peut vouloir dire aussi à côté de.
Ah, il y a un trouble là.
On pourrait très bien traduire que voilà, l'Adam s'endort, étant sommeillé par la divinité dans une espèce de torpeur, qui est aussi une torpeur presque magique, chamanique. Le mot hébreu est employé parfois dans les littératures prophétiques pour signifier ces sommeils dans lesquels vous avez des rêves et des apparitions. Donc c'est quand même ça. Donc il y a ce côté là, et on pourrait dire voilà, est créé à côté de lui.
un autre être et qui va être et que lui va reconnaître comme femme.
Et comment vous ce passage-là justement sur la création de la sexuation et donc de la sexualité et donc aussi on pourrait dire de la création de la perpétuation des générations, c'est-à-dire que l'homme devient lui-même.
C'est l'enjeu. Hein,
c'est créateur. Justement sur cette distinction entre homme et femme, est-ce qu'on peut faire une lecture actuel de ce texte réactualisé en disant voilà, il y a d'abord eu l'Adam, certes qui est d'un genre indéfini, puis les animaux, puis à la fin quand même une femme. Est-ce que vous compreniez qu'on puisse lire la Bible aujourd'hui comme quelque chose où on se dit la femme arrive en dernier?
On l'a beaucoup dit, on l'a beaucoup critiqué, mais c'est pour ça que là j'essaie de montrer comment le texte finalement aujourd'hui peut être, c'est pas actualisé, ou enfin en tout cas l'interprétation peut avoir le souci de des questions contemporaines. Alors parfois on me dit c'est horrible parce qu'on change tout, mais ça a toujours été fait. Quand saint Augustin interprète la Bible, il interprète en fonction des considérations de son temps, de la pensée de son temps, des nécessités à la fois théologiques, politiques, spirituelles de son temps. Là c'est la même chose, on interprète. Et la femme arrive en dernier, oui et non, puisque finalement il n'y a pas d'homme avant. C'est pour ça que j'insiste, c'est l'humanité, donc on peut très bien interpréter le texte sans le forcer, en disant que l'Adama, il y a homme et femme. Et d'ailleurs,
c'est comme si en fait on dissociait presque.
Et d'ailleurs, le premier texte de création qui est Genèse 1, où on les crée mâle et femelle en même temps. Ils sont créés mâle et femelle tout de suite. Mais ils sont créés mâle et femelle et on continue à dire l'Adam. On dit il les crée l'Adam. Il le crée mâle et femelle, et après on continue à dire l'Adam pour dire les deux. Donc il y a cette idée au début, comme ça, de quand même, il y a une question sur la sexuation, dans ces textes. Et donc le deuxième texte, c'est pour ça qu'on répète la création. C'est comme pour essayer de chercher dans le récit, et c'est la force de la littérature biblique, c'est le récit est toujours un travail d'élucidation des questions qu'on peut se poser. Et on revient toujours
sur les questions. Et un travail de la langue aussi, qui ne cesse de se répéter.
Ça joue sur les mots aussi, puis ça joue sur les mots, on joue sur les expressions. Et donc là, on essaye de comprendre pourquoi finalement, alors on approfondit et on raconte cette histoire de solitude. Et c'est très beau, puisque ça veut dire qu'effectivement, ça lie trois choses. Ça lie la solitude de l'humanité, face au vivant, face aux animaux là, mais on peut dire à tout le vivant, puisque même il est face à ce jardin, donc il est aussi, et c'est, il faut se souvenir qu'il a été, il est installé comme celui qui doit avoir le souci du jardin, hein, ça peut résonner aujourd'hui, ça, voilà, donc, et il doit répondre de sa solitude face au vivant et face effectivement à cette question du genre et à cette question de la sexuation et à cette question effectivement, comme vous l'avez dit après, effectivement de la génération.
On va écouter un autre texte de votre traduction aussi, Frédéric Boyer, et cette fois-ci c'est le fameux épisode, si je puis dire épisode, Abraham et Isaac.
Abraham coulait de longs jours au pays des Philistins. Le Dieu met alors Abraham à l'épreuve. Il l'appelle. « Abraham !» Réponse. « Je suis là. » Il lui demande. « Prends ton fils unique, ton fils aimé, Isaac. Pars au pays de la Moria, où tu l'offriras en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham s'est levé avec le jour. Son âne sanglait, il emmène deux garçons avec lui et son fils Isaac. Il fend le bois pour l'Holocauste et se met en route vers le lieu indiqué par le Dieu. Le troisième jour, Abraham lève les yeux et voit au loin le lieu. Il dit aux garçons, « Attendez ici avec l'âne. Le petit et moi, nous irons là-bas nous prosterner et reviendrons vers vous. » Abraham charge son fils Isaac du bois de l'Holocauste. Il tient dans ses mains le feu et le couteau. Les voilà partis tous les deux seuls. Isaac demande à son père Abraham.
« Mon père ?»«
Oui, mon fils. » »«
Il y a bien le feu et le bois, mais où est l'agneau de l'Holocauste ?»«
Pour l'agneau, mon fils, Dieu verra, » répond Abraham.
Isaac, c'est quelqu'un qui donne le bonheur, qui donne la joie. Et pourtant, la tragédie d'Isaac est en lui. Il ne peut pas l'oublier. Et jamais il ne l'oubliera. Je trouve que c'est le personnage le plus émouvant de la Bible. Il est extrêmement beau, extrêmement triste et en même temps, il est généreux. Sa présence n'est pas lourde. On aimerait beaucoup avoir Isaac de son côté. Pourquoi ? Peut-être parce qu'il a vécu une vie tragique. Peut-être parce que c'était le personnage le plus tragique de l'histoire juive. Il a vu Dieu contre lui. Il a vu son père avec un couteau à la main, prêt à l'égorger. Il a tant vu. Et pourtant, c'était un poète. Isaac a composé le service, l'office de Mincha, la prière de l'après-midi. On le voit tout le temps seul, se promenant dans le champ, rêveur.
La voix de Elie Wiesel, écrivain et philosophe roumain, qui parle de la beauté d'Isaac. Vous avez choisi cet extrait, Frédéric Boyer, qu'on a entendu juste avant d'Abraham, du sacrifice d'Abraham, donc de son fils Isaac. Est-ce que le personnage d'Isaac vous touche tout autant, ou c'est plutôt celui d'Abraham, voilà, qui est une figure fascinante? On peut peut-être avoir, peut-être, je le dis un peu de manière bête, des personnages préférés,
si,
en
si,
fait.
Oui, mais moi c'est Abraham. Oui.
Pourquoi?
D'abord, c'est quand même, c'est le c'est, si on fait un peu d'histoire un peu œcuménique, c'est le personnage du monothéisme, des monothéismes. Mm. Quand même, elle est bon là. C'est... Et puis c'est lui qui lance le truc. On parlait tout à l'heure de la Genèse. On a ces 11 premiers chapitres qui racontent donc la création du monde, le fratricide, le déluge,
la tour de Babel.
Et après, on a toute une série de généalogies avec tous les noms des différentes tribus, des différents peuples. Chapitre 11. Chapitre 12 de la Genèse, tout quelqu'un surgit, il s'appelle Abraham. On sait pas d'où il vient finalement, on sait un peu parce que il vient d'une famille qui est nommée juste avant. Mais pourquoi lui? Et pourquoi passer? On passe comme ça d'un coup de récits mythologiques, éthiologiques, généraux, voilà.
Oui, ou Adam n'est pas Adam,
voilà,
mais l'Adam.
Oui, c'est l'Adam, et puis c'est des personnes. Un récit romanesque, là, voilà.
Avec un héros, donc.
Un héros, c'est, moi j'appelle ça une odyssée, c'est une véritable odyssée, d'ailleurs, l'histoire d'Abraham. Et surtout, il apparaît de façon presque burlesque. Hein.
Vous le voyez comme une sorte de Charlie Chaplin?
À moi, tout à fait. Ah oui, c'est drôle que vous disiez ça, parce que pour moi, c'est lié un peu à un art cinématographique du style Buster Keaton ou Charlie Chaplin. Ce chapitre 12 a une trentaine de versets. En 30 versets, le type apparaît. Il dit oui à une voix qui lui dit « Maintenant, tu quittes tout, ta famille, ton pays, tu pars, tu sais pas où, c'est un pays que je te donne. » Ok, il part. Mais ça prend 3 versets. Il part, il arrive, la terre qu'on lui promet... C'est le verset 6 du chapitre 12, ça résonne aussi dans l'actualité aujourd'hui. Les Cananéens sont déjà là dans ce pays. Bon, voilà ça, mais il reste. Il traverse, il commence à rendre des petits cultes à ce dieu, cette divinité qu'il a quand même arraché de toute sa famille et de sa terre et de ce qu'il avait. Manque de bol, famine. Abraham n'est pas le type le plus courageux du monde, la famine, il décampe. Et le mot décamper, c'est le mot hébreu. Donc, il décampe, il démonte son camp et il part. Il va où ? Il va dans l'empire le plus puissant de l'époque, en Égypte. Il est avec sa femme, Sarah. Mais l'Égypte, c'est très puissant. Pharaon est très puissant. Et il se dit, oulala, si je dis que Sarah est ma femme, ils vont me tuer, ils vont prendre ma femme et tout ce que je possède. Donc, il fait croire à tout le monde, et notamment à Pharaon, que sa femme est sa sœur, et donc, il n'y a aucun problème. Et il donne sa femme à Pharaon. Quand même,
ce qui est quand même absurde.
Voilà,
parce qu'il ne veut pas qu'on lui
prenne.
Part au harem
de Pharaon. Alors, oui. Il va au harem de Pharaon. Et Abraham reçoit pour ça de nombreux cadeaux. Il reste là-bas, tranquillement, quand même. Rien n'est dit. Et au bout d'un moment, Pharaon, qui est quelqu'un, en tout cas à ce moment-là de la Bible, quelqu'un de sage et de puissant, découvre la supercherie. Il ne tue pas Abraham, il le renvoie, il lui laisse quand même tous les cadeaux. Hein. Il lui redonne sa femme, il lui rend ses cadeaux, il lui dit « Enfin, quand même, là, tu pars de chez moi. » Tout ça, c'est 30 versets, et c'est un petit personnage burlesque qui essaye de... Et Kafka disait, dans son journal, Kafka a beaucoup écrit sur le personnage d'Abraham et sur ce qu'il appelle les Abrahams, les différents personnages d'Abraham. Et il disait « Souvent, il répond comme un garçon de café. » Et donc ça m'amène à ce chapitre 22 du sacrifice d'Isaac. Par deux fois...
Là, c'est pas du tout un gag.
Vous allez voir que
impossible. Si. C'est impossible. C'est-à-dire que c'est la même chose. Hein. La voix l'appelle, il répond oui. La voix lui dit maintenant tu pars sur la Moravie. Il dit ok, il y va. Quand même, Isaac, c'est le fils de la promesse. Hein. C'est-à-dire, c'est le fils chéri, le fils de la promesse, le fils qu'il n'aurait pas dû avoir, que Sarah a eu. Le fils même qui va faire qu'on va se séparer d'Ismaël, quand même, hein, qui est quelque chose de dur. Et
l'autre fils, donc.
Ouais, l'autre fils. Et là, la divinité, celle qui lui a donné ce fils, qui a fait l'effort, effectivement, de faire que, à l'âge où on peut plus avoir d'enfant, il a donné ce fils et lui a dit c'est le fils de ma promesse, de notre promesse ensemble. Ce fils, la divinité, lui aurait dit maintenant, tu vas le sacrifier sur la montagne. C'est là où on voit comment ce texte biblique à la fois est victime en quelque sorte, mais c'est comme ça, de ses interprétations et de ses lectures, et qu'il faut toujours avoir le souci, la curiosité, l'impertinence parfois, de revenir au texte et de revenir aussi à d'autres interprétations. Ce qui se passe dans ce texte aussi, qui est très bref, où le père accepte de sacrifier son fils, c'est comme un récit policier. Hein. On a un tout petit récit policier. D'abord, il n'est pas dit que Dieu lui ait vraiment demandé ça, et que la grande question de ce texte, c'est qu'est-ce qu'a entendu Abraham ? Et la grande question de ce texte, d'un point de vue philosophique et spirituel, c'est qu'entendons-nous quand on nous parle ? Voilà.
Encore bien, la question de la parole.
Bien sûr. Bien là, ce qu'entend Abraham quand on lui parle, c'est la violence et la mort. Et s'il avait entendu autre chose. Et tout le texte va fonctionner comme ça. D'abord, cette première phrase où on dit « va sur la montagne faire un holocauste ». En hébreu, on peut très bien traduire mot à mot, littéralement, et c'est ce que fera aussi certains commentateurs juifs médiévaux diront « mais en fait, Dieu n'a pas demandé à Abraham d'aller tuer son fils, il a justement dit « prends ton fils et va sur la montagne ». Faire monter en fumée, donc c'est-à-dire faire un feu, faire un feu de sacrifice. Alors, on peut comprendre. Donc, si vous voulez, c'est une énigme. Donc, on peut résoudre l'énigme en disant, il faut que j'aille sacrifier mon fils. Mais on pourrait aussi entendre.
Va faire un feu avec ton fils.
Avec Isaac, et je vais faire, voilà. Et tout le récit est comme ça. Il monte, il prend le bois, il n'y a pas l'agneau. Le fils s'inquiète. Il commence un peu à flipper, Isaac. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il y a cette phrase, effectivement, qui est littérale, là, qu'on a traduite comme ça. Dieu verra. C'est-à-dire, qui est aussi le nom de la montagne sur laquelle il monte. Donc, Dieu verra, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que vous voyez? Voilà. Quand on vous parle, est-ce que vous entendez la violence? Ou est-ce que vous entendez une sorte de, la réconciliation ou la vie ensemble, etc. Et là, c'est pareil. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez le pire? Vous voyez autre
chose? Et qu'est-ce que vous voulez?
Et qu'est-ce que vous voulez?
Voir.
Et l'ange qui apparaît, donc, il y a ce moment où Abraham est conduit, effectivement, à tuer son fils, mais c'est peut-être une mécompréhension, effectivement, tragique, effectivement. C'est-à-dire que la tragédie, c'est pas simplement, comme le dit Elie Wiesel avec beaucoup de poésie, ou comme on le dit souvent, la tragédie, c'est pas, finalement, c'est pas de tuer son fils, parce que c'est pas ça le vrai problème, là. C'est que la tragédie, c'est que Abraham n'a peut-être pas compris ce qui lui a été dit.
Et c'est là où c'est drôle. C'est-à-dire qu'il y a...
On peut lire ça aussi de façon burlesque. Kafka le fait d'ailleurs, de façon très, à la fois burlesque et tragique. De façon,
les deux vont ensemble.
Voilà, les deux vont ensemble. C'est-à-dire que ce type qui est toujours prêt à répondre oui, eh bien la divinité lui met devant sa précipitation. Quoi.
Est-ce que vous riez en lisant la Bible?
Oui, moi ça m'a... D'abord, il y a des textes très drôles.
Est-ce que vous pensez souvent à la Bible?
Oui. Non, je pense souvent avec la Bible, oui, c'est vrai.
C'est vrai, c'est vrai. Et est-ce que ça vous aide? Et là, je ne parle pas effectivement du texte avec tout ce qu'on l'a chargé de théologie et de principes et d'obscurantisme même
ça
parfois.
Ça m'aide, alors je n'ai pas de...
Mais est-ce que c'est un texte auquel vous vous référez en vous disant « Tout est une question d'interprétation, tout est dans la parole, qu'est-ce que j'ai voulu voir ?»
Oui, ça m'aide dans ce sens-là, oui. Ça m'aide dans ça. Après, c'est pas un livre de développement spirituel,
non.
De développement personnel, la Bible. Hein, ça. Mais effectivement... C'est une école d'interprétation, voilà. Et en tout cas, sur les textes, ça vous apprend véritablement à faire attention aux différentes voix d'un texte, aux différentes intentions, et à la façon dont un texte peut vous conduire et vous mener à des énigmes et à des questions à élucider, qui sont parfois pas élucidables, mais que voilà, mais c'est ce travail-là. C'est-à-dire, plus vous allez aller vers la traduction au sens large, la traduction de ce qui est dit, la traduction d'une langue aussi, mais aussi la traduction de ce que vous ressentez, de ce que vous éprouvez, de ce que vous lisez, eh bien, plus vous faites un acte vivant, quoi, un acte qui vous...
Ou de frustration aussi. C'est frustrant, ça veut dire aussi qu'il n'y a jamais, on peut jamais dire qu'on a lu la Bible complètement, c'est-à-dire qu'on peut la lire de A à Z, la retraduire, mais...
Vous voyez qu'effectivement, chaque lecture peut apporter quelque chose.
Donc il y a quelque chose de l'ordre de la frustration, la parole, en fait, on n'est jamais sûr d'avoir bien compris ce que l'autre nous a dit. Même si là, j'ai quand même compris ce que vous me dites, chose m'échappe.
Alors, frustration, bon, si vous voulez, on peut trouver ça comme frustration, mais c'est aussi une formidable école de vie, quoi. J'aime pas trop parler comme ça, mais si, puisque à chaque fois, le travail, c'est interpréter. C'est exactement ce que dira un jeune rabbin galiléen au 1er siècle de notre ère. Il dira, mais qu'est-ce que vous avez entendu des Écritures qui sont les nôtres? À chaque fois qu'il y a un problème, il dit, mais il cite, ou à chaque fois qu'on lui cite une parole donc de la Torah, donc de la Bible, puisque ce jeune rabbin était donc rabbin, donc il était là pour interpréter avec d'autres la parole, les Écritures, c'était ce qu'on appelait la loi orale, c'est-à-dire le travail d'interprétation des Écritures, à chaque fois, ce jeune rabbin, donc, appelé Jésus, Yeshua, est là pour dire, mais qu'est-ce que vous entendez? Voilà. Qu'est-ce que vous entendez avec cette parole qui est une parole prophétique qu'il reprendra tout le temps, hein, qui a des oreilles, qui l'entendent? Ça veut simplement dire, faites le boulot d'interpréter. Voilà. Parce que en vous, il y a ce travail d'interprétation. Et si vous le mettez pas en œuvre, ce travail d'interprétation, eh bien, vous pouvez aller vers le pire. Voilà.
France Culture, le souffle de la pensée. Géraldine Mosna-Savoie.
Nu. Est-ce qu'il y aurait des guerres si on était resté tout nu? Non. Ou cacher un revolver quand on est tout nu? Ou je sais où vous pensez, mais c'est pas une bonne idée. Ouais. Plus de riches, plus de pauvres quand on redevient tout nu. Oui, qu'on soit slim, qu'on soit gros, on est tout simplement tout nu. Oui, vivons comme on est né, nu, vivons comme on est né, nu, tout simplement tout nu.
Cette chanson de Philippe Catherine, Frédéric Boyer, pour revenir sur cette polémique, il y en a eu plein d'autres, mais il y a eu une polémique pendant la cérémonie d'ouverture des JO avec cette scène où Philippe Catherine était tout nu, justement, qui a été vu comme une... Enfin, nu pas complètement d'ailleurs, il avait un slip et quelques fruits aussi, et puis il était peint en bleu, donc il y avait quand même de la peinture. Et cet épisode, ce moment, cette séquence a été vue justement comme une parodie de la scène, ce dont se défend d'ailleurs Thomas Joly, le metteur en scène de cette cérémonie, ni parodie, ni la scène. Mais on voit bien quand même que la Bible ne peut pas... supporte pas à certains moments différentes interprétations, ou alors les interprétations sont tout le temps vues comme des polémiques plutôt que comme quelque chose de créatif, on pourrait dire.
Non, mais pour répondre sur cette polémique, d'abord, je connais un peu Thomas Joly parce que je travaillais avec lui sur un opéra autour de Macbeth avec Pascal Dussapin. C'est quelqu'un de formidable et qui fait un travail vraiment passionnant, et je trouve de toute façon complètement injuste et scandaleux qu'on lance des anathèmes sur quelqu'un, parce que vous savez qu'il est un peu
persécuté. Il est en procès, hein. Aussi.
Non, mais
c'est enfin, il est en procès, il a il
même,
est pas en procès,
dire aux gens,
il a porté plainte.
Il faut dire aux gens, on ne peut pas faire ça, quoi. On ne peut pas développer cette violence comme ça contre quelqu'un qui est un artiste, qui est un créateur. On peut très bien critiquer ce qu'il a fait, on peut très bien, les gens qui trouvent que le spectacle d'inauguration n'était pas intéressant, ben très bien, ils ont le droit, c'est pas le problème, mais on ne peut pas aller à ce stade de violence. Alors après, cette histoire de polémique, d'abord, que ce soit la scène ou pas, on s'en fout, et si c'est une parodie de la scène, eh ben c'est très bien. C'est depuis les débuts du christianisme, on parodie la scène, depuis les débuts du christianisme, le christianisme a été parodié, moqué, et même d'une certaine façon, si tous ces gens qui hurlent sont chrétiens, ils devraient savoir qu'être chrétien, c'est comprendre qu'on est d'abord... le sujet d'un mépris, le sujet d'une
humiliation,
d'une humiliation, c'est-à-dire que le Christ est Christ d'aller jusqu'au bout de ça. Voilà, il va jusqu'au bout, c'est-à-dire que, et ensuite le christianisme a toujours été critiqué, a toujours été moqué, a toujours été ridiculisé. Ça, c'est vrai, c'est vrai dès l'Antiquité, c'est vrai au Moyen Âge. Si vous lisez les textes d'un romancier latin, Lucien par exemple, il y en a un qui prend comme héros une sorte de effectivement, de mage qui, en fait, on lit très bien que c'est un mage chrétien, que c'est le Christ, en fait, qui passe de vie à la mort. Qui... Et c'est une comédie, mais hilarante, parfois assez choquante pour un chrétien, on va dire, pour quelqu'un peut-être qui est très, 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 très pieux ou très pratiquant, mais ça a toujours été, le monde médiéval aussi a ridiculisé les symboles chrétiens dans certaines fêtes, dans certaines traditions. On a toujours... Qu'est-ce que ça peut faire? Enfin, vraiment, c'est pas...
Mais comment vous expliquez? Et d'ailleurs,
et c'est normal, et c'est même sain. Voilà,
c'est d'ailleurs avec la Bible, mais c'est aussi avec des grands textes de littérature. Comment vous expliquez que parfois on soit trop premier degré?
Non, mais là, c'est pas
avec
la Bible.
Des grands...
Là, c'est pas la Bible. C'est là, ça donne l'occasion de dire c'est pas la Bible. La scène, c'est pas la Bible. Il n'y a pas la scène dans la Bible. Alors, j'ai choqué tout le monde. Voilà, il y a le repas, effectivement. Le repas du soir de la Pâque que Jésus va consacrer avec ses disciples et où il va annoncer sa passion, voilà, et en même temps en faire une sorte de repas d'amitié et de souvenir et de mémoire pour fonder sa propre mémoire, voilà, c'est ça qui devient la scène ensuite dans la culture à la fois liturgique, théologique et spirituelle chrétienne, voilà ce qu'on va appeler la scène effectivement, et il va y avoir des représentations. Et moi je vais dire une chose, si vous prenez, mais je sais pas, 50 représentations de la scène dans la peinture occidentale, mais vous avez des représentations qui sont à hurler, vous faites n'importe quoi. Vous avez une espèce de Jésus complètement énamouré avec des disciples. C'est-à-dire que je ne comprends même pas, moi, ce genre de polémique. Je ne comprends pas où les gens se sentent blessés. Moi, je veux bien, si quelqu'un est sincèrement... Mais il est blessé où? Voilà, ce pauvre Philippe Catherine, qui est assez drôle, qui est quelqu'un... contrairement à ce qu'ils disent, assez délicat aussi, fait cette chanson, qui est une jolie chanson. On peut ne pas aimer, je m'en fous, mais ça n'a rien de... Je ne vois pas où est la blessure, je ne vois pas où est...
Et est-ce que d'ailleurs on a le droit de se sentir blessé à la lecture d'un texte, si j'étends la question?
On peut, mais qu'on s'explique, quoi.
Est-ce que c'est légitime? On a le droit, mais est-ce que c'est vraiment... est-ce que ça se...
Mais en tout cas, rien n'est... On peut trouver ce spectacle... On peut trouver ce spectacle ou cette mise en scène nulle, on peut trouver ça grotesque, grossier, on peut le dire, et très bien, ça c'est tout à fait... Mais de là à en faire une polémique injurieuse, qui pousse à la censure, à l'excommunication, à je sais pas quoi, là, c'est absolument lamentable.
Cette chanson, Frédéric Boyer, pour introduire cette séquence de fin d'émission, après nous avoir parlé du texte auquel vous revenez sans cesse, place à un auteur qui vous résiste, que vous ne comprenez pas, tout simplement vous n'aimez pas, de qui s'agit-il?
Alors...
Vous avez dû faire un choix, c'était difficile.
Un choix difficile. Alors, j'ai parlé de René Char, le poète René Char. Alors, c'est un grand poète français, et d'une certaine façon, il me résiste. Et je vais expliquer pourquoi il me résiste. Je ne suis jamais arrivé à entrer dans sa poésie, voilà, qui est une poésie, pour moi, une poésie, je sais pas comment dire, une poésie où l'idée, le concept, où la vient en premier, et où en quelque sorte le langage et ça est une sorte de prédication dans tous les sens du terme.
Ah là, il n'y a pas d'interprétation, c'est non, ça que vous
voulez dire. Ben non, et j'ai toujours eu du mal, et où le lyrisme, comme ça, finit par n'être plus qu'une succession de presque de formules. Et je suis jamais arrivé à rentrer dedans, et pourtant on a beaucoup essayé. Je me souviens qu'en Cagne, j'avais une professeure de philosophie qui, si on citait pas René Char dans sa copie, on n'avait pas la moyenne. Bah, après, donc, j'exagère, mais
vous avez compris qu'après il fallait le citer.
Ben, j'ai eu du mal à le citer justement. Et alors c'est aussi parce que peut-être c'est pas cette poésie-là qui m'émeut et que j'ai envie de défendre. C'est une poésie qui est peut-être plus modeste, une poésie qui est peut-être plus dans la chair du langage et dans la difficulté du langage, plutôt que dans l'invention de la formule qui va claquer, et aussi dans les éléments à la fois modestes, neutres, parfois pauvres du monde. Et puis après, alors ça, c'est, je vais être un tout petit peu plus méchant. C'est que c'est quand même un poète qui a mal tourné. Alors c'est pas à cause de lui, le pauvre René Char, mais c'est sa poésie qui a été mal reçue, mal interprétée, je crois. Et j'ai découvert que il n'y a pas un rapport d'activité d'entreprise sur deux ou trois qui ne cite pas René Char. Et ça, je trouve ça pitoyable pour le pauvre René Char. Là, je prends sa défense. Je dis quand même, foutez-lui la paix dans ses rapports d'entreprise. Il était très, très, très loin de ça. Mais comme ces formules. Alors, voilà,
Moi, j'en ai une à vous citer. Impose ta chance, serre ton destin, va vers ton risque, à te regarder, ils s'habitueront.
Moi, je ne comprends pas. Voilà, c'est quelque chose. Non, mais c'est une langue. Non, mais si je comprends, mais voilà, c'est. C'est une espèce d'énonciation qui a une assurance et un lyrisme qui me parle pas du tout, quoi. Voilà.
Donc il y a quelque chose à la fois dans la poésie de René Char, mais aussi dans la manière dont est reçu, utilisé cet auteur. En général, ça va ensemble.
Bien sûr, c'est intéressant. Ça fait tout de suite formule. Et peut-être qu'on a tort de faire ça. Qu'il faudrait replacer ces phrases et ces formules
dans des poèmes,
dans le texte, dans le poème pour voir. Hein. Moi, j'en ai une que j'avais vue dans un festival d'Avignon où on célébrait René Char et qui m'avait fait beaucoup rire. C'était l'acte est vierge, même répété. Et les gens avaient mis cette phrase mystérieuse, l'acte est vierge, même répété.
Qu'est-ce que ça veut dire, vous pensez?
Si je le prends au sens littéral, c'est un peu terrible, voilà.
Et est-ce que vous auriez envie, justement, avec cet auteur ou avec d'autres, quand ils sont en fait trop méconnus, mal reçus, enfin pas mal reçus, mais du moins réduits seulement un peu, de lutter contre ça, de vous replonger dans l'œuvre de René Char, ou au contraire, voilà, de dire allez voir d'autres auteurs, allez voir d'autres poètes, arrêtez avec des citations de René Char.
Bah, de toute façon, je dis aux gens qu'il ne faut pas s'arrêter à la poésie de René Char, il faut lire d'autres poésies, oui, tout à fait. Mais peut-être, oui, on devrait faire... peut-être ça existe, peut-être qu'il y a un travail... Il y a des travaux qui sont menés peut-être en ce moment sur René Char, j'en doute pas, et qui le prennent plus au sérieux. Mais il y a un côté quand même un peu, je vais être encore plus méchant, pseudo-philosophique dans sa poésie qui est vraiment pénible. Quoi, voilà.
Bon, bah, merci beaucoup, voilà. Frédéric Boyer. Grâce merci à vous, beaucoup. On va pouvoir, on peut relire la Bible retraduite sous votre direction, mais je le rappelle aussi avec une quarantaine d'autres personnes, des écrivains contemporains, toujours avec des exégètes. Elle est disponible aux éditions Bayard. C'est formidable à lire. J'ai commencé à lire, peut-être un jour la finirai-je, grâce à vous, Frédéric Boyer. On peut aussi relire ou lire les évangiles que vous avez retraduits également. C'est aux éditions Gallimard. Et enfin, votre dernier roman, Petite fille, est paru aux éditions Gallimard. Et un grand merci à Manon Delasselle qui a préparé l'émission, à Nicolas Berger à la réalisation et à Alex Dang à la prise de son. Vous pouvez réécouter cette émission et celle d'avant sur le site de France Culture, à la page de l'émission ou sur la toute nouvelle application de Radio France. Lundi, vous retrouverez une nouvelle série d'émissions d'Avec Philosophie au programme. Une chose que vous n'entendez jamais à la radio, le silence.